Merci Seigneur, il n'y a pas de message plus beau, plus magnifique, plus enthousiasmant que le message de l'Évangile, le message de la croix, du salut par grâce en Jésus. Effectivement, Jésus, dans sa grâce, a tout payé. Il a payé la totalité, l'intégralité de ma dette et il l'a payé jusqu'au dernier centime. Il ne reste plus rien, il ne subsiste plus rien. Tout, absolument tout, est effacé. Mon péché effacé, mon passé effacé. Qui accusera les élus de Dieu ? C'est Dieu qui justifie, ni accusé, ni condamné. Pas de remords, pas de regrets. Je me suis repenti. Si je me suis authentiquement repenti, tout par la foi, tout est effacé. Merci Seigneur. Et mon frère, ma sœur, si il y a des moments dans ton cœur où tu vis encore la tête baissée, où tu as encore des doutes, des hésitations, si tu as encore des limites, parfois des chutes, des choses récurrentes, peut-être des chutes ou des rechutes avec certains péchés, de toute façon, c'est parce que tu n'as pas saisi la profondeur, les richesses de sa personne et de sa connaissance. Il a tout effacé. Il m'a totalement libéré. Le péché n'a pas de pouvoir sur moi parce que je suis sous la grâce exclusivement et sous aucune forme de loi. Toute forme de loi, quelle qu'elle soit, donne du pouvoir au péché dans ma vie. Mais la puissance de la grâce me libère totalement du péché. J'ai tout pleinement en lui. Je peux tout par celui qui me fortifie. Et s'il y a des moments... Le Seigneur n'a rien à faire de plus, ni pour moi, ni pour vous, ni pour aucun d'entre nous. Il a fait tout ce qu'il avait à faire, comme l'a dit Jean-Philippe. Tout est sur la table et il faut considérer chaque facette des trésors, des richesses, de sa connaissance, de sa personne, de ses œuvres, de tout ce qu'il est, de tout ce qu'il a. Il a tout accompli. C'est à nous d'aller, de venir, de prendre, de saisir, parce que le Seigneur a tout accompli. Amen. Et il n'y a rien de plus grand, il n'y a rien de plus beau, il n'y a pas de plus beau message que cette, et il n'y a rien qui ne vaut plus la peine d'être vécu que cette vie nouvelle, totalement nouvelle, dans son nom, dans sa grâce et dans sa puissance. J'ouvre avec vous ce matin un nouveau message dans la continuité de l'Église, c'est notre thématique. Nous voulons, nous souhaitons, par la grâce de Dieu, considérer les différentes facettes des enseignements bibliques au sujet de l'Église parce que nous voulons être une Église selon le cœur de Dieu, selon sa pensée. Nous avons vu ensemble déjà que l'Église, évidemment, n'est pas un bâtiment, mais ce sont des personnes, ecclésia, appelés hors d'eux, des personnes qui sont appelées hors de ce monde de péché et de ténèbres. Et ces personnes devenues les rachetées du Seigneur par son sang, c'est ceux qui sont sauvés par la repentance et la foi, bien sûr, toujours exclusivement par la repentance et la foi, devenus les disciples de Jésus, leur nom est inscrit dans le livre de vie. Réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie, disait Jésus à ses disciples. Et nous sommes devenus les citoyens du ciel. Cette Église n'est évidemment, alors qu'elle est constituée de personnes, nous l'avons saisie, est une institution divine. Elle n'a rien d'humain, ce n'est même pas l'invention des apôtres. C'est Jésus qui a dit « Je bâtirai ». Donc il est le seul et unique fondement de l'Église. Et « Je bâtirai mon Église », il en est aussi le légitime propriétaire. La volonté de Jésus, la volonté de Dieu, le Fils de Jésus, c'est une épouse. Jésus a toujours voulu une épouse. Et cette épouse, il se l'est acquise, dit Paul, par son propre sang. Il s'est donné lui-même pour elle et il a payé le prix ultime. Il a supporté l'insupportable pour que vous et moi, nous soyons aujourd'hui son épouse et son corps. Nous avons considéré aussi que cette église est une... En réalité, déjà le fait que ce soit des gens, des personnes et pas un bâtiment, c'est très original comparé aux conceptions du monde. Mais en plus, cette église, c'est réellement une folie de Dieu. Puisque Dieu a voulu que ce soit des gens qui n'ont rien à faire les uns avec les autres. Des gens que tout sépare, des gens qui ne se retrouveraient jamais naturellement, des gens qui sont de toute nation, de toute tribu, de toute culture, de tous horizons, de toute langue, de tout peuple, de toute civilisation. Des gens qui n'ont rien à faire ensemble, qui se retrouvent et qui sont un, plus fort que tout, plus fort que la mort, et qui constituent un peuple. Un royaume, un corps, une épouse, un troupeau, un édifice, etc., etc. C'est fou, mais nous avons vu que, à la lumière de ce qu'enseigne la parole de Dieu, c'est totalement possible d'être un, parce qu'il faut que les points spirituels soient, qui nous unissent soient au-dessus, il faut qu'ils transcendent tout ce qui concerne les affinités, l'humain, le charnel, le terrestre, tout ce qui doit passer en arrière-plan, même disparaître. Il faut conserver toujours sous nos yeux les points spirituels qui constituent le fondement de notre unité. Puis nous avons insisté aussi sur ce qu'est l'unité, sur ce qu'elle n'est pas. Je ne vais pas reparler de ces choses, tout est sur le site internet. Et puis la semaine dernière, nous avons considéré que, oui, Jésus a payé le prix ultime et à la croix, et à cause de tout ce que nous avons en commun en lui, l'unité est déjà constituée, l'unité est réalisée. Et on voit que l'apôtre Paul a une préoccupation majeure, notamment pour l'église des Philippiens que nous avons considérée la semaine dernière, mais aussi, en vérité, on le retrouve dans quasiment toutes les épîtres. La préoccupation majeure de Paul, c'est de maintenir l'unité de l'église et de les encourager, parce que cette cité spirituelle céleste sur la terre, l'église, est menacée par des conflits internes. Et il insiste sur ma responsabilité, mais la vôtre, une responsabilité individuelle et collective de refuser, de renoncer à tout ce qui pourrait atteindre l'unité de l'église. Même si je dois ravaler ma salive, même si je dois aller pleurer chez moi ailleurs, même si je dois me taire, même si l'apôtre Paul met toujours en évidence l'humilité de Christ comme pivot central, comme point de repère, comme fil à plomb, et il enseigne les disciples en leur disant « N'oubliez jamais que vous avez un souverain, un maître. C'est grâce à son humilité, c'est grâce à son abaissement que vous êtes là aujourd'hui, que vous pouvez être un et que vous avez une unité. Et cette unité ne pourra être maintenue que si les citoyens du ciel considèrent l'exemple de leur maître, le reproduisent, le vivent et le mettent en pratique jour après jour. C'est ça votre combat. Vous avez, en tant que soldat du ciel, vous avez une ligne de conduite, à une ligne de défense à maintenir coûte que coûte, c'est qu'aucun intrus spirituel ne vienne. Donc c'est non à la colère, non à la discorde, non à la rancune, non à l'amertume, non à la critique, non à au colportage, non au mensonge, non à la médisance. Et chaque fois qu'il y a des éléments, non à l'esprit de parti, non à la vaine gloire, chaque fois que des choses sont là parce que ce sont ces choses charnelles, je dis qu'elles viennent de l'extérieur, mais enfin des fois elles... Ça vient de l'intérieur, il faut qu'on meure à nous-mêmes, évidemment, on le comprend bien. Le Seigneur n'a pas fini de nous changer, de nous transformer, mais l'apôtre Paul dit bien à l'église de Philippe, mais en définitive à chaque citoyen du ciel, vous avez dans votre souverain un modèle exceptionnel. Ne le perdez jamais de vue, vivez comme lui, et l'unité, je vous garantis qu'elle sera conservée à n'importe, coûte que coûte, peu importe ce qui arrivera. Amen. On va considérer ce matin autre chose. Ce sera la dernière facette sur l'unité, puis après on parlera d'autres aspects des facettes de l'Église, bien sûr, mais ce matin, en trois points simples, je veux vous parler des principaux bienfaits, des principales bénédictions qui sont liées, qui sont des conséquences de l'unité. Nous parlons ce matin des bienfaits de l'unité. On va faire plusieurs lectures ce matin. La première, on l'a fait dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 12. Les références que l'on va regarder ensemble ce matin ne sont pas très longues, mais il y en a un petit peu dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. On commence par Matthieu, chapitre 12, verset 25. cette simple phrase de Jésus, mais qui révèle un grand principe. Matthieu 12, 25, tout royaume, quel qu'il soit, tout royaume, divisé contre lui-même, est dévasté. Et toute ville ou toute maison divisée contre elle-même ne peut pas subsister. Amen. Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut pas subsister. Les propos de Jésus sont réellement tranchés. C'est pas peut-être, il y aurait peut-être moyen quand même de possible, éventuellement. Jésus dit non, ce n'est pas possible. La subsistance, vivre la vie, la subsistance, ici dans les propos de Jésus, c'est catégorique, c'est tranché, c'est une question de vie ou de mort. L'unité est indispensable à la vie, et puis on va le voir aussi parce que de la vie découle la force. L'unité est indispensable à la vie et à la force. Le monde est incapable de le vivre au sens où l'Église est appelée à le vivre, mais le monde a déjà compris ces choses. Vous connaissez cet adage, l'union fait la force. Ça, ce n'est pas dans la Bible, c'est un adage dans le monde. Mais les gens ont compris que diviser pour mieux, ce n'est pas dans la Bible. Pourtant, c'est quelque chose qu'on entend, un proverbe dans ce monde, mais pourtant, ce sont des adages, oui, des adages, mais qui sont vraiment inconsciemment inspiré de la pensée biblique, des principes du royaume de Dieu. L'union fait la force, divisé pour mieux régner. On sait que le diable est très fort à ce jeu-là. Il est extrêmement uni aux forces démoniaques, un tiers des étoiles, un tiers des forces anciennement angéliques qui ont chuté, qui l'ont suivi, qui ont été précipitées avec lui, avec ses autorités, ses dominations, ses puissances maléfiques. Un tiers des anges sont partis avec lui. Il est extrêmement uni. Dans le royaume de Satan, il n'y a aucune division. Ils sont tous sur la même longueur d'onde, il n'y a aucun problème. Et puis pour ce qui est ensuite, il a très bien compris l'union fait la force. Et ensuite, pour ce qui est de diviser pour mieux régner, alors là aussi, il est très très fort. Il sait où il doit être uni et il sait où il doit faire un jeu de division pour séparer. L'histoire de ce monde nous montre aussi, on le sait, c'est de la pure logique. Quand vous regardez l'histoire de ce monde, vous vous apercevez que les plus grands ouvrages, les plus belles réalisations, même s'il y a eu des têtes pensantes, il y a eu du génie civil pour des bâtiments, une architecture, des viaducs, des choses, les plus grandes réalisations, les cathédrales, tout ce qu'il y a de plus énorme dans ce monde, on sait très bien que ça n'a jamais pu être fait par un, deux ou trois personnes. C'était vraiment, une unité, il fallait une unité, des corps de métiers différemment, mais réellement unis et qui vont commencer à créer, à réaliser quelque chose. Dans l'histoire de ce monde, dans l'histoire des guerres, une armée qui est unie, comparée à une armée qui est démantelée, quand vous en avez un qui se bagarre tout seul dans son coin avec 3-4, puis un autre qui se bagarre tout seul. Mais c'est beaucoup plus facile de venir à bout d'une armée dont les membres sont disséminés que de venir à bout d'une armée qui est unie, qui est soudée et qui fait front ensemble. Et ça, le monde le sait. Et en réalité, l'unité, je m'aperçois que même la création nous l'enseigne. Le Seigneur est vraiment extraordinaire. Je ne sais pas si vous faites attention, si vous observez, après avoir lu la Bible, vous observez la création ou inversement. Mais en réalité, le Seigneur a mis dans la création, il a mis tous les principes de son royaume. Et on va lire ensemble dans le livre de Job, au chapitre 41. Dans le contexte, le texte que l'on va lire parle d'un drôle d'animal qui se trouve être le crocodile. Mais le Seigneur va véhiculer un enseignement spirituel en prenant l'exemple d'une créature qu'il a voulu ainsi. Job chapitre 41, on va prendre les versets 3 à 8. Si vous relisiez un petit peu avant, vous vous apercevez que dans le contexte, il est effectivement question de cet animal, le crocodile. Et voilà ce que le Seigneur dit pour attirer l'attention de son serviteur. Je veux encore parler de ses membres, ceux du crocodile. Je veux encore parler de ses membres et de sa force et de la beauté de sa structure. Qui soulèvera son vêtement? Qui pénétrera entre ses mâchoires? Qui ouvrira les portes de sa gueule? Autour de ses dents habite la terreur. Ses magnifiques et puissants boucliers, il est question de ses écailles, ses magnifiques et puissants boucliers sont unis, ensemble, comme par un sceau. Et nous, est-ce qu'on n'est pas unis ensemble par le sceau de Jésus, par le sceau de l'Esprit? Ils sont unis ensemble comme par un sceau. Ils se serrent, ces boucliers magnifiques et puissants, ils se serrent l'un contre l'autre, même l'air ne passe pas entre eux. Ce sont des frères, et là l'analogie elle est tout de suite faite avec l'unité des membres de l'Église. Ce sont des frères qui s'embrassent. C'est pas qui s'embrassent... C'est pas est-ce qu'on se fait la bise le dimanche, mais c'est pas cette embrassade-là dont il est question. Hein. Qui s'embrassent, c'est-à-dire qui vraiment qui se prennent. Ce sont des frères qui se saisissent et qui demeurent inséparables. Amen. Ici, le Seigneur montre une image. Être un comme les écailles, c'est-à-dire comme le bouclier du crocodile. Ça constitue en vérité tellement les boucliers sont proches que même l'air ne passe pas. C'est hallucinant, il n'y a pas d'autre mot. L'air est partout, l'air circule partout. Vous avez déjà essayé d'empêcher de l'air, même si vous bouchez les arrivées d'air, de toute façon, il y a de l'air. L'air qui passe partout, il y a deux éléments qui arrivent toujours à se faufiler partout, c'est l'air et l'eau. Et là, même l'air ne peut pas passer parce que c'est un blindage. Extrêmement solide, c'est un véritable blindage, rien ne passe, même pas l'air. Ces puissants boucliers sont unis ensemble et ces boucliers sont l'image pour des frères qui se saisissent et qui demeurent inséparables. Ce qui signifie... Tiens Fred, viens voir. Voilà. Il ne va rien t'arriver, t'inquiète pas. On est frères. Mais on peut avoir, tout en étant frère, certaines distances. Et s'il y a un moment de la distance, là, c'est quand même pas mal. On n'a pas seulement du respect, de la considération pour quelqu'un. On a pris du temps, on se connaît, et puis on est sur la même longueur d'onde, on parle, on aiguise, on accorde nos violons, comme on dit. Et on est de plus en plus proche. Mais vous voyez là, il y a beaucoup d'espace encore. Pourtant, on est quand même proche. Hein. On commence vraiment à être... Donc, ce sont des frères qui se saisissent et qui demeurent inséparables. C'est-à-dire que ma mission, ma priorité, c'est de veiller à ce que, entre Fred et moi, là, ici, rien ne devrait passer, même pas l'air. Parce que si quelque chose, si le diable qui est malin voit qu'entre mon frère et moi, il y a ne serait-ce que ça, lui qui rôde et qui inspecte mes murailles, nos murailles, il voit ça. Eh ben, il sait exactement où il va devoir passer le pied de biche, et là, et il va pouvoir nous séparer. Alors, est-ce que ce sera un différent de seconde zone, quelque chose dont on n'a strictement rien à faire? Moi, je pensais que si, toi, tu pensais que ça, tu pensais qu'il fallait chanter le 559, mais moi, je voulais le 576, mais toi, tu dis comme ça, moi, je pense... Ce sont des frères qui demeurent inséparables. Une fois que l'unité est constituée, ils demeurent inséparables. Rien ne passe, même l'air. T'es gêné? Ah ben c'est bien. Vas-y. Merci Fred. Et c'est exactement cette image de ce que je dois veiller, de ce que rien ne passe entre mon épouse et moi. Parce que l'Église ne peut pas être autre chose que ce qu'est mon couple. L'Église ne peut pas être autre chose que ce qu'est ma vie avec Dieu. Et le Seigneur me dit... vous voulez comprendre l'unité ? Regardez les boucliers, les écailles, le bouclier du crocodile. Rien ne passe, même pas l'air. Rien ne doit passer entre mon frère et moi. Rien ne doit s'immiscer, je ne dois rien laisser. Si quelque chose se présente, il n'y a pas de... Il m'a regardé bizarre ce matin, lui. Il n'y a pas de... Ouais, ben, tu sais, finalement, Fred... On va voir. Hein. Tu t'assois là, s'il te plaît. Moi, je reste là. Voilà, on va faire comme ça. S'il y a quelque chose, nous sommes des frères, nous devons demeurer inséparables, et tout ce qui pourrait se présenter à différents niveaux pour essayer de nous séparer, d'écarter, pour donner l'avantage à Satan, tout de suite, je vais voir mon frère, je lui en parle, il m'en parle, et on le règle tout de suite, et on se parle avec l'amour, la douceur, le respect, la bienséance qui convient au corps de Jésus, parce que nous sommes le corps de Jésus et l'expression de son cœur, mais s'il y a quoi que ce soit, mon frère me parle, je parle à mon frère, nous nous sommes embrassés, nous nous sommes saisis et nous devons demeurer inséparables. Eh bien, ça, c'est la force de l'Église. C'est ça l'unité, bien-aimée. Après, je veux quand même préciser quelque chose. Tu peux couper le PowerPoint et puis tu peux préparer la petite vidéo, merci. Il faut quand même préciser quelque chose, frères et sœurs, pour qu'on soit totalement juste, totalement honnête. J'ai dit, l'ennemi de nos âmes, parfois, il va essayer. C'est vrai, il essaye. Mais franchement, il n'y a pas des moments où on lui fait son boulot. Nous-mêmes. Ce que je veux dire, c'est que l'ennemi, il n'a pas besoin de chercher beaucoup des failles entre nous. Il n'a pas besoin de chercher beaucoup. Parce qu'il y a notre ancienne nature, notre nature charnelle, notre nature d'enfant spirituel, l'immaturité, le vieil homme. Prenez n'importe quelle expression de Paul dans les Épîtres, ça désigne le même état de choses charnelles que j'ai encore de mon ancienne vie et que malheureusement je n'ai pas fait mourir en moi. C'est par manque de sanctification que le diable n'a pas besoin d'exciter beaucoup la querelle, la jalousie, la dispute ou... Parce que je lui fais son boulot. Pourquoi ? Parce qu'il y a des choses en moi, je ne les ai pas faites mourir. Parce que j'ai besoin encore terriblement de sanctification. J'ai besoin de ressemblance à Christ. J'ai besoin d'aller plus loin. Et ce sont autant de points sur lesquels, malheureusement, les églises étant tenues en échec, l'ennemi de nos âmes n'a pas besoin de beaucoup insister. Parfois, je suis sûr qu'il n'a même pas de boulot. Il est juste assis. Il regarde. Il doit y avoir parfois des dominations ou des autorités maléfiques qui doivent parfois nous regarder. Excusez-moi, hein, je ne suis pas méchant, mais ils doivent regarder les églises puis dire, t'as vu ? Eh bien, cette semaine, c'est bon. Eh bien, cette semaine, on est encore en vacances. Ils ont fait le boulot à notre place. Je suis désolé. Hein. Une armée démantelée, des soldats, des frères et sœurs qui ne sont pas forcément... Parce qu'on a du respect. Ils ne sont pas forcément divisés, l'ennemi est malin, mais qui ne sont pas nécessairement, qui ne sont pas réellement unis tel que la Bible le conçoit, eh bien, c'est une armée, c'est un peuple, c'est une église qui est facile à vaincre parce qu'elle est faible. L'unité est source de force. Il y a un autre exemple d'invincibilité, et là je pèse mon mot parce que dans la pensée de Dieu, le crocodile, vu comme il est présenté, est un animal invulnérable. Il est invincible. Personne ne peut le percer. Et il y a un autre exemple. Je ne vous fais pas lire le texte parce que c'est juste une phrase qui m'est revenue. Proverbe chapitre 6. Le Seigneur dit, parce que la création porte la marque du Créateur, l'horloge porte la marque de l'horloger. Proverbe 6, le Seigneur dit, va vers la fourmi, considère ses voies et deviens sage. Va vers la fourmi, considère ses voies et deviens sage. Et ça m'a rappelé ce documentaire que j'avais vu il y a très longtemps. Merci au frère qui a réussi à le récupérer pour moi parce que j'avais perdu. Il y a un spécimen de fourmi que je vais vous montrer. Ça ne dure que 3 minutes. Faites bien attention à tout ce qui est dit dans le reportage. C'est une prédication en soi sur l'unité. Il y a un spécimen de fourmi qui s'appelle les fourmis de feu. Et nous, logiquement, nous sommes des citoyens de feu. Et nous sommes aussi des fourmis à l'échelle de cette terre. Ces fourmis de feu vivent en Amérique centrale, dans une région qui leur est particulièrement hostile, parce que c'est une région où il y a réellement des pluies diluviennes, des fortes crues. Et comme ces fourmis ne sont rien à l'échelle des pluies diluviennes qui s'abattent sur la terre, leur vie en réalité est régulièrement, pour ne pas dire constamment, menacée. Déjà, elles ne sont pas faites pour l'eau, et en plus, il y a des forces de la nature qui s'abattent sur elles. Seule, une fourmi, elle flotte un petit peu parce que son exosquelette est tellement léger qu'elle flotte un peu, elle se débat, mais elle finira de toute façon par sombrer. Mais ensemble, quand il y a des secousses, quand il y a une pluie diluvienne, naturellement, elles se regroupent et elles arrivent à constituer un radeau. Et elles sont tellement proches les unes des autres qu'il n'y a même pas d'eau, pas une goutte d'eau. Pourtant, l'air et l'eau passent partout. Une infiltration d'eau, je vous garantis, quand l'eau a trouvé son chemin, vous êtes cuit. Même une goutte d'eau ne passe pas entre elles, tellement les fourmis sont serrées. Et elles arrivent comme ça, alors que les fleuves sont déchaînés en Amazonie, elles arrivent sur ce radeau à se maintenir jusqu'à ce qu'elles atteignent l'autre rive, qu'elles atteignent la terre ferme. Vous allez voir, c'est absolument incroyable. Je coupe la lumière ici, ça ne dure que 3 minutes, soyez très attentifs. Tu peux envoyer, merci frère.
Les fourmis de feu sont des insectes grégaires qui travaillent toujours en collaboration. Ce travail d'équipe leur permet de compenser leur petite taille. Et c'est essentiel dans la région où elles habitent. Elles sont endémiques des forêts pluviales d'Amérique centrale et du Sud. Ces forêts portent bien leur nom, il y pleut beaucoup. Leur fourmilière souterraine risque chaque année d'être inondée. Sulisei Ponkyo et une équipe de biologistes étudient la résistance de ces fourmis à l'eau.
Quand on pose une fourmi sur l'eau, elle flotte un peu et elle essaie de nager. Mais ça ne l'amène nulle part. Une fois sous l'eau, elle finit par couler.
Leur exosquelette repousse l'eau. Pourtant, elles ne sont pas armées pour nager. Alors comment ces fourmis font-elles pour survivre dans l'une des régions les plus inondables du globe? C'est là que le travail d'équipe intervient. Quand ces fourmis sont secouées dans un bocal, elles forment une boule. Et quand cette boule entre en contact avec l'eau, elle réagit très différemment d'une fourmi isolée.
Quand on pose une boule de fourmis dans l'eau, elle s'étale à la surface. Les fourmis emprisonnent des bulles d'air entre elles et entre leurs poils. Ces bulles leur permettent de flotter.
Contrairement à une fourmi solitaire, ces fourmis ne craignent pas l'eau quand elles sont en groupe. Elles forment un îlot parfaitement étanche qui reste toujours en surface. Les biologistes ont également découvert que sous cette forme, les fourmis pouvaient supporter jusqu'à 400 fois leur poids.
Elles forment un radeau en s'accrochant les unes aux autres avec leurs mandibules et les griffes tarsales de leurs pattes.
Elles augmentent ainsi leur capacité à repousser l'eau. Leurs corps s'entrecroisent comme les fibres d'un tissu imperméable. Elles sont capables de construire ces radeaux à la vitesse de l'éclair. Voilà comment elles survivent aux pluies diluviennes dans leur milieu naturel. Elles peuvent tenir ainsi pendant des mois. Leur radeau flotte à la surface de l'eau jusqu'à rencontrer la terre ferme. C'est un travail d'équipe exemplaire. Quand les fourmis adoptent ce type de comportement, elles ont tout d'un super organisme.
Merci beaucoup. Il n'est pas extraordinaire, le Seigneur. Franchement. Mettre ça dans la création. Je ne comprends pas comment les gens qui regardent la création n'arrivent pas à croire en Dieu. Ce n'est pas possible. Là, frères et sœurs, vous avez un exemple extraordinaire de la force qui découle de l'unité et qui rend autant ce crocodile à son niveau que les fourmis de feu à leur niveau, qui les rend totalement invulnérables, invincibles. Et nous, à l'échelle de ce monde, nous sommes des fourmis. Vrai ou pas ? Nous ne sommes rien. Nous sommes des fourmis. Notre vie, lorsque nous sommes seuls, alors bien sûr, nous sommes en communion avec Dieu, Dieu nous garde, amen. Mais en réalité, il y a tellement de menaces. L'ennemi de nos âmes, on le sait, avec cette nuit qui s'épaissit, est en train d'accentuer, d'augmenter en plus, de plus en plus, la pression à différents niveaux sur cette terre, la nuit, le péché, les abominations, tellement de choses. Et l'Église est là, confrontée un petit peu comme ces fourmis, si elles sont là. Oui, il ne suffit pas d'être là les unes les autres, pas trop loin. Il faut absolument, dès que vous avez vu, dès qu'il y a une secousse, le biologiste, il prend le bocal. Et dès qu'il y a une secousse, automatiquement, en l'espace de ça, a pris 2 secondes, il a fait ça. Et en 2 secondes, elles ont formé une boule qui supportait 400 fois leur poids. Frères et sœurs, ici, je sais que vous avez souffert. Je sais que vous avez pris cher. Je sais qu'il y a eu beaucoup de choses extérieures, intérieures, je sais. D'autres églises, oui, bien sûr, bien sûr. Pourquoi est-ce que le Seigneur permet que des choses s'effondrent ? Pourquoi est-ce que le Seigneur permet qu'il y ait de graves, de sérieuses secousses ? C'est pour que les fourmis que nous sommes, sentant les secousses, fassent ça et le fassent très vite. Parce que c'est ça qui va garantir la pérennité de l'Église dans l'avenir. Amen. Voilà le modèle, voilà l'exemple. Merci Seigneur. La vie, la subsistance, la force sont un bienfait. Je pourrais même mettre, invincibilité. Sont un premier bienfait de l'unité. Deuxième chose, on lit ensemble le psaume 133, un texte assez connu, je pense, mais il est bon du coup de le lire, parce que l'unité, au sens où le Seigneur la conçoit, telle que nous venons de la décrire, est source de bénédiction aussi, d'approbation divine. Psaume 133, vous étiez dans le livre de Job, et les psaumes, c'est juste derrière. On peut lire la totalité du psaume, il n'est pas très long, même s'il y a juste une partie qui va plus alimenter ce point. Un psaume de David. Voici qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer, pas seulement dans le même lieu, de demeurer ensemble. Et on commence à percevoir la pensée de Dieu dans le mot « ensemble ». C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend aussi sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Cette unité, telle que nous l'avons décrite, cette harmonie, réjouit le cœur de Dieu. Dieu se plaît, on a vu, être un comme le Dieu trinitaire est un. Il se plaît, il se reconnaît et par conséquent, il va pouvoir s'installer, il va pouvoir relâcher sa présence. Et le Saint-Esprit qui vit en nous et qui est au milieu de nous, lorsqu'il est non plus attristé, mais réjoui à cause de l'unité de ses enfants, des citoyens du ciel, peut enfin donner la pleine mesure de ce qu'il est. Il se sent bien, il se sent à l'aise alors il peut relâcher sa présence. C'est comme ça que l'unité devient source de bénédiction et d'action de l'Esprit dans les cœurs, en nous et au milieu de nous. Il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse répandue. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie. L'huile, c'est un symbole dans la parole, on le sait. L'huile est un symbole du Saint-Esprit. Il y a plusieurs symboles. L'eau, le vent, le feu, la colombe. L'huile aussi est un symbole de l'Esprit qui est répandu. L'huile pour la guérison des blessures, l'huile pour l'onction, l'huile d'approbation, cette huile qui revêtait les rois, les sacrificateurs, parce qu'ils étaient oints, parce qu'ils étaient approuvés de Dieu. L'huile qui coule, cette huile, symbole de l'Esprit, est répandue. L'unité libère l'onction, relâche la présence du Saint-Esprit là où il est honoré, réjoui, là où il se sent à l'aise, là où il se reconnaît tout simplement. Et c'est de lui, c'est de sa présence, de son onction, de son action dont nous avons désespérément besoin dans nos cœurs, dans nos couples, dans nos familles, dans nos vies, dans l'Église, individuellement et collectivement encore. Parce que sans lui, l'apôtre Paul le dit, la parole, qui pourtant est inspirée et infaillible, sans l'esprit est lettre morte, mais l'esprit vivifie. Sans lui, tout est sec, tout est mort, tout est fade. Mais lui, l'huile qui vient de Jésus, l'huile qui vient de l'olivier, l'huile qui vient, l'huile qui coule, cette huile de l'esprit, lorsqu'elle est répandue dans nos cœurs, lorsqu'elle est répandue en nous et au milieu de nous, cette huile-là, c'est une huile de bénédiction. Et on commence ensuite à voir naturellement, l'action de Dieu, la puissance de l'Esprit de Dieu dans les cœurs, dans les vies et dans nos rassemblements. Parce qu'il y a un ensemble dans lequel Dieu se reconnaît. Amen. La bénédiction, l'approbation. Même chose dans le Nouveau Testament. Je vous avais dit, souvenez-vous, que les disciples, ce n'est pas qu'ils ne priaient pas, mais en Actes 1,14, après leur échec, après que Jésus, dans sa grâce, soit revenu les chercher, et pas qu'une fois, il est revenu trois fois les chercher, et que là, il soit venu leur parler, les rassurer, les apaiser, qu'il soit venu les restaurer, qu'il soit venu les chercher. Ensuite, en Actes 1,14, juste après l'ascension, on voit les disciples, et c'est la première fois qu'il est dit d'eux, tous d'un commun accord. Ce n'était pas la première fois que les disciples y priaient, mais c'était bien la première fois, Actes 1,14, que les disciples étaient ensemble d'un commun accord. Et par conséquent, là, c'est à partir de ce moment-là qu'il y a eu cette effusion, une effusion de l'Esprit sans précédent, avec tout ce que nous connaissons, l'unité qui a été le miracle à l'origine de tous les miracles qui se succèdent dans le livre des Actes, qui est un livre, c'est passionnant, les Actes, ça donne le tournis tellement c'est puissant, c'est passionnant, c'est enthousiasmant, parce qu'on y voit une multitude d'interventions de l'Esprit de Dieu, de bénédictions, de miracles en tout genre. Oui, oui, c'est magnifique, mais dans les Actes, on voit une soif de Dieu sans précédent. Dans les Actes, on voit une consécration sans précédent, un don de soi sans précédent. Dans le livre des Actes, on voit une obéissance. Dans les livres des Actes, on voit une dimension, une sainteté de vie sans précédent. On voit une dimension de zèle, d'amour. On voit un feu sans précédent. Tout ça, mais dans le livre des Actes, à l'origine du livre des Actes, on trouve une unité sans précédent. Et c'est ça, cette unité qui est le miracle à l'origine de tous les miracles. Et puis ensuite, par la grâce de Dieu, ils ont maintenu cette unité lorsqu'il y avait des désaccords, lorsqu'il y avait des choses qu'ils n'avaient pas comprises les uns, les autres, parce que nous sommes tous imparfaits, parce qu'on ne comprend pas tous les choses au même moment. Il y a des moments où vous lisez, vous vous apercevez que les apôtres, pourtant ils étaient apôtres, hein, il a quand même fallu aussi qu'ils accordent leur violon et puis que pour que l'œuvre de l'Esprit continue à être manifestée et qu'il y ait réellement ces vagues continuelles et répétitives bénies de l'Esprit dans l'Église primitive. Je vais terminer avec ça, bien-aimés. Troisième point, si vous voulez bien ouvrir avec moi le livre, l'épître de Paul aux Éphésiens, pour considérer le dernier bienfait. Éphésiens, chapitre 4, on va lire les versets 11 à 16, s'il vous plaît. Éphésiens, chapitre 4, on va lire les versets 11 à 16. Il, c'est Jésus lui-même, verset 11, « Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes. » Il s'agit des cinq ministères, dont ministère de la parole. « Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère, de l'édification du corps de Christ. » C'est la vocation principale des ministères de la parole, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, c'est le sens aussi de la prédication, l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fait, mature, spirituel, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leurs ruses dans leurs moyens de séduction, mais en professant, en confessant la vérité, en confessant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Et c'est surtout ce verset 16 qui m'interpelle pour ce matin. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, même pensée, formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et qu'il s'édifie ensuite lui-même dans l'amour. Amen. Le corps, bien coordonné, forme un solide assemblage et tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties. Vous voyez, la vraie croissance, bien-aimé, est d'abord une croissance qualitative, sur des points que j'ai cités, notamment l'unité, avant d'être une croissance quantitative. Cette croissance, qui est une grâce de Dieu, une réponse, une approbation de Dieu sur l'unité qu'il valide et dans laquelle il se reconnaît, il faut noter que quand il y a unité, il y a une croissance naturelle. On n'a pas besoin de s'évertuer, on n'a pas besoin de chercher, de tirer, de compliquer. Regardez votre corps. Dès votre naissance, votre corps est un corps, avec déjà des tas d'organes, des tas de membres, etc. Mais un corps. Et votre corps constituait déjà une unité bien coordonnée. Et c'est parce que vous aviez déjà un corps, vous n'aviez pas à la naissance un bras là-bas, une jambe là-bas, le foie éclaté et la rate de l'autre côté. Non, vous aviez déjà une unité, petite certes, mais une unité bien constituée. Et ensuite, le corps grandit naturellement, spontanément, ensemble. Tout le monde grandit, le corps grandit. Mon foie n'a pas grandi plus que mon cœur, que mes épaules, que mes jambes, etc. Ça s'est fait naturellement. Pourquoi la croissance est-elle naturelle ? Parce qu'à la base, il y a une unité qui est déjà constituée et qui existe. Je ne sais pas vous, mais moi je vous garantis, pour que mes enfants y grandissent, moi je n'ai jamais tiré sur les cheveux de ma fille pour qu'ils poussent. Ça ne sert à rien, c'est naturel. Je n'ai pas tiré sur les bras de mon fils ou sur ses jambes pour qu'il devienne un homme, pour qu'il grandisse. J'étais pas sur son dos tous les quatre matins pour lui dire « Ouais, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, arrête de faire ci. » Bon, il y a des moments où il faut les recadrer, on est d'accord. Mais non. Parce que vos enfants, nous, à partir du moment où nous sommes aimés, où nous sommes choyés, où nous sommes en sécurité, où on prend soin de nous, où on nous nourrit naturellement, vous prenez un enfant, prenez-en soin, aimez-le, nourrissez-le naturellement, ben la croissance, elle est automatique, oui ou non ? Oh, la croissance, c'est naturel. Et ce qui vous surprend, ce n'est pas que l'enfant, il grandisse. Enfin, des fois, ça vous a surpris parce qu'au mois de juin, ça allait. Au mois de septembre, les ados, ils étaient comme ça. Et maman, je crois que j'ai un problème. Non, tu n'as pas un problème, mon chéri, tu as grandi un peu vite. Mais tant mieux, c'était la bonne surprise, tu as grandi plus vite. Mais en réalité, la croissance, elle était naturelle. Vous n'avez jamais été surpris de ce que vos enfants grandissent. Ce qui vous a inquiété, peut-être si ça vous arrivait, ce serait des moments où peut-être les enfants, des enfants ne grandissent pas. Et là, on se dit, oh, ça fait un moment, et toujours, on va aller contrôler, on va aller voir, est-ce qu'il n'y a pas un souci, il n'y a pas un virus, il n'y a pas un obstacle ? Qu'est-ce qui fait que... Parce que la croissance, tout le monde le conçoit, la croissance, elle est naturelle. Bien aimé, Dieu a tout mis dans les principes de sa création, il a tout mis dans mon corps. La croissance est naturelle. L'Église croit naturellement en qualité et en quantité. Et si ça ne se fait pas, ben il ne faut pas tirer, ça ne sert à rien. Je ne tire pas sur l'Église, l'Église ne tire pas sur moi, je ne tire pas sur ma femme, je ne tire pas sur mon frère, le frère ne tire pas sur la sœur, pour essayer d'obtenir quelque chose. Si la croissance n'est pas au rendez-vous, il faut juste se poser les bonnes questions, aller à la source et dire qu'est-ce qui manque à ce corps pour qu'il grandisse ? Ben, frères et sœurs, 9 fois sur 10, ce qui manque à ces corps que sont les églises en France et ailleurs, ben, c'est l'unité. Parce que mon corps était un dès la naissance et ensuite, cette croissance a été naturelle. Mon corps n'aurait jamais pu se développer sans unité. Il fallait qu'il soit un et il était un avant de grandir. Amen. C'est pareil pour ce corps qu'est l'église. Je termine avec... Acte 9, 31, je vous fais pas chercher, je le lis pour vous. Ou si vous voulez, on y va ensemble, parce que ce sont quand même, si on prend le temps, on prend le temps. Ce sont quand même des textes réellement extraordinaires. Acte 9, verset 31, ce sera ma conclusion pour vous montrer. Avec un autre texte, le même principe que la croissance est une conséquence naturelle, c'est un bienfait de l'unité. Et là, il ne faut pas se méprendre, je vais vous expliquer, il ne faut pas se méprendre sur le sens des mots. On ne peut pas interpréter la Bible n'importe comment. On comprend les textes toujours à la lumière des contextes. Et là, au verset 31, on lit... L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Ça représente un sacré territoire, ça va loin. S'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, un profond respect, pas la peur, hein, un profond respect du Seigneur, et elle s'accroissait, croissance, par l'assistance du Saint-Esprit. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée, la Samarie, s'édifiant, marchant dans un profond respect du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Amen. L'Église était en paix. Ce n'est pas ici au sens où elle n'avait pas de problème. Dans le contexte, juste avant, acte 8 nous montre qu'une énorme persécution a éclaté. Et que les disciples ont été obligés, ils ont été dispersés dans tout le bassin méditerranéen. La lapidation d'Étienne, validée par Saul de Tarse, qui n'était pas encore converti, a eu un impact considérable pour une vague de persécution derrière acte 8. Il y eut une grande persécution contre l'Église. Donc l'Église était en paix, c'est pas au sens où elle n'avait pas de problème. L'Église était en paix, c'était en paix interne. Elle était en paix, les uns, les membres, les uns avec les autres. Parce qu'à l'extérieur, ça secouait. Mais comme ça secouait très fort à l'extérieur, à l'intérieur, automatiquement, ils n'avaient pas vu le reportage sur les fourmis de feu, mais ils avaient tout de suite compris. Et ça secouait à l'extérieur, mais à l'intérieur, l'Église était en paix, c'est-à-dire la paix dans les relations avec les membres, et même les églises les unes avec les autres. En Judée, tout proche autour de Jérusalem, en Galilée, on fait un cercle beaucoup plus grand, jusqu'en Samarie, là-haut au nord-ouest, ça fait un énorme cercle, ça représente un grand territoire. L'Église était en paix au sens où il n'y avait pas de conflit, il n'y avait pas de tension, il y a eu des désaccords, mais ils ont réglé au fur et à mesure, et ils ont conservé l'unité. L'Église était en paix, les membres les uns avec les autres, les églises les unes avec les autres. Et sur cette base-là, elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Amen. Voilà, bien-aimés, voilà à quoi le Seigneur pense dans sa parole. Ce n'est pas moi qui le dis, la Bible est claire. Voilà à quoi il pense quand il parle d'unité. Et voilà les bienfaits, la subsistance, la force, l'invincibilité, la bénédiction, l'approbation du divin, l'huile de l'Esprit qui coule et qui se répand et qui permet à l'Esprit de donner en nous et au milieu de nous la pleine mesure de ce qu'il est, et la croissance naturelle, qualitative et quantitative de l'Église. Merci pour votre attention, soyez bénis. On se recueille, s'il vous plaît. On va prier quelques instants. Merci, Seigneur.